Le rôle du modérateur étant de présenter les différents invités, je vais d'abord procéder à ça et puis après je poserai des questions et je laisserai les invités répondre. Et si vous le voulez bien, à la fin de l'heure qui nous est dévolue ou des 50 minutes qui nous sont dévolues, on laissera la parole à la salle pour qu'ils puissent poser des questions aux auteurs. Et je vous rappelle le sujet de ce café littéraire, c'est des fées, des magiciens comme s'il en pleuvait. Donc faites attention, prenez parapluie à portée de la main. Normalement, nous devrions être 4 auteurs plus une traductrice, Anaïg Wesnard. Mais pour l'instant, Catherine Dufour n'est pas là, mais on va commencer sans elle. Alors je vais partir de la gauche avec Chris Debien, qui est un auteur de romans de fantasy pour la jeunesse, mais qui exerce, je vous rassure tout de suite, une profession sérieuse, donc peut-être il aura l'occasion de nous parler, qui offre quand même un très grand contraste avec l'univers de la fantasy. Est-ce que l'un n'est pas le moyen de s'abstraire de l'autre? À ma droite, Édouard Brazet. Alors Édouard Brazet, il porte plusieurs casquettes. C'est l'auteur d'un certain nombre d'encyclopédies sur les fées, les lutins. Il a collaboré très régulièrement avec Sandrine Gestrin, qui illustre plusieurs de ses livres, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un romancier qui a écrit des romans fantastiques et également une trilogie de fantasy qui se déroule dans la mythologie germanique. Et dans la mythologie germanique aussi, il y a peut-être, pas forcément des fées, mais de la magie et des magiciens. Et enfin, à côté d'Anaïg, Trudy Canavan, qui est une des grandes vedettes de la fantasy en ce moment. C'est un auteur canadien. Elle est née à une date que je ne vous révélerai pas, mais que vous pouvez trouver sur le net sans problème. Elle est australienne, bien sûr. Elle est née dans une petite ville qui s'appelle Kew, près de Melbourne. Et elle a un parcours très intéressant, puisqu'elle a fait un travail de graphiste, notamment pour une revue australienne, pas canadienne, australienne, qui s'appelle Aurealis. Et c'est également dans cette revue qu'elle a commencé à écrire, puisqu'elle a commencé par écrire des nouvelles. Elle a d'ailleurs obtenu en 1999 un prix, le prix Aurealis, pour la meilleure nouvelle de fantasy, avec un titre dont je ne me donnerai pas le ridicule de le lire en anglais. On lui demandera de le dire comme il convient. Et ensuite, dès 2001, elle a entamé une trilogie de fantasy qui s'appelle la trilogie du magicien noir, qui a été traduite en France chez Bragelonne. Et donc, dans son œuvre, forcément, il y a des magiciens. Et puis, après cette trilogie qui s'est terminée en 2003, elle a écrit ce qu'on appelle une préquelle. C'est un terme anglo-saxon, mais comme on n'a pas d'équivalent en France, on peut peut-être l'utiliser, qui s'appelle « L'apprenti du magicien ». Et ensuite, elle a écrit une deuxième trilogie qui s'appelle « L'âge des cinq », qui, je crois, elle aussi a été traduite chez Bragelonne. Et elle est en train de publier une troisième trilogie qui s'appelle « The Traitor Spy », l'espion traître. C'est plutôt un titre de roman d'espionnage, mais bon, découvrira-t-on cette trilogie chez Bragelonne? Voilà. Donc, vous pourrez continuer à suivre le travail de Trudy Canavan bientôt. Ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que c'est un auteur best-seller en Australie, en Angleterre, et apparemment, d'après ce que m'ont dit mes petits camarades de Bragelonne, c'est un des auteurs qui vend le mieux également en France. Alors, comme c'est une femme, que c'est une Australienne, on va commencer par lui poser la première question. Vous savez qu'en fantasy, une des caractéristiques de la fantasy, c'est la magie. Et que généralement, dans les ouvrages de fantasy, cette magie, elle est mise en œuvre par des personnages qui ont un rôle particulier. Alors, ces personnages, ça peut être des fées. Le spécialiste de la fée, c'est Edouard. Il nous en dira plus tout à l'heure. Mais c'est également des magiciens, des sorciers, ou peut-être des personnages qui ne sont pas forcément des magiciens, mais qui ont des dons. Et je crois que dans un des romans de Trudy Canavan, on découvre qu'une jeune fille, une jeune femme, a des dons magiques sauvages, tout à fait étonnants. Alors, dans votre œuvre, le magicien noir, est-ce que c'est un magicien qui se situe du mauvais côté, comme Saruman, ou est-ce que c'est un magicien qui se situe de bon côté, comme Gandalf?
Actually, I can't answer that question because it would spoil the plot for anyone who hasn't read the first trilogy.
En fait, je peux pas répondre à cette question parce que ça gâcherait l'intrigue pour ceux qui ont pas lu la première trilogie.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les magiciens sans révéler l'intrigue?
The reason I can't answer that question is because black magic is banned. It's forbidden.
En fait, la raison pour laquelle je ne peux pas répondre à cette question, c'est qu'en fait, la magie noire est interdite. Elle est bannie.
It's only towards the end of the series that the black magic actually comes into it.
Et ce n'est qu'à la fin de la trilogie, qu'à la fin de la série, que en fait, la magie noire est acceptée et commence à arriver.
The rest of the magicians use a standard kind of magic, which is quite approved of.
Et donc dans le reste, la magie noire commence à être un peu approuvée.
Alors, tu seras obligé de se contenter de cette réponse, mais pour l'instant, nous reviendrons à la charge. Edouard, parle-nous des fées.
Alors que je parle des fées, comme ça,
oui, alors,
de but
oui,
en blanc.
Ex abrupto, j'espère que tu ne vas pas me dire que tu ne connais rien sur les fées. Je te croirais pas.
On ne connaît jamais tout sur les fées, parce qu'en fait, les fées, ce qu'on appelle les fées, c'est un terme un peu générique, un peu fourre-tout en réalité. Par exemple, les anglo-saxons, pour parler du monde féerique en général, les appellent plutôt elves, ce qui correspond pour nous à elfes. Et en fait, la fée, c'est un peu un terme dans lequel on met un personnage féminin qui a des pouvoirs magiques et qui intervient dans le sort des humains, généralement pour leur bien, mais pas toujours. Alors pourquoi pas toujours? Non pas parce qu'il y a des mauvaises fées, même si on les appelle comme ça parfois, mais tout simplement parce que les fées, tout comme l'ensemble du petit monde de féerie, se situe dans un autre espace-temps que le nôtre, aux lisières de notre réalité. Et il y a une chose qu'ils ne connaissent pas et qui les différencie vraiment de nous autres pauvres humains, c'est la différence entre le bien et le mal. Les fées n'ont pas de notion de bien ou de mal. Elles peuvent avoir la notion de plaisir ou de déplaisir. Elles peuvent avoir la notion de fidélité ou de trahison, ça l'ont, mais le bien et le mal ne connaissent pas. Ce qui fait que la relation à la fée, entre l'humain et la fée, parce que c'est ça qui souvent nous intéresse, elle est entachée de ce paradoxe qui est le suivant, c'est que quand on regarde les récits du folklore, pas spécialement ceux des contes merveilleux, mais ceux du folklore, que ce soit le folklore celtique, anglo-saxon, breton, français ou d'autres régions d'Europe, essentiellement, on a souvent affaire à des récits dans lesquels un être humain, généralement un seigneur, etc., dans les récits médiévaux, rencontre une femme qui est généralement est superbe, grande, belle, si belle que dans l'instant il tombe amoureux d'elle. Et c'est une des définitions en fait de la fée, c'est la femme dont on tombe amoureux dès le premier regard. Et dans l'instant, alors qu'il ne la connaît pas, il lui demande de l'épouser. C'est par exemple le thème de Mélusine, mais on a plein de récits comme ça. Et la fée, que répond-elle? Elle répond toujours oui. Et plus exactement, elle répond oui, mais. Et tout le paradoxe de la fée est dans ce mais. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti toujours son accord dans l'alliance avec l'être humain au respect d'un tabou, d'un interdit. Cet interdit n'est jamais tout à fait le même, mais il se ressemble souvent. C'est-à-dire que dans le cas de Mélusine, c'est « Oui, je veux bien t'épouser, à condition que tu me laisses la liberté de mes samedis, de façon à ce que je puisse me baigner. » Bon, ça nous semble peu de choses. À l'époque où se passe l'histoire de Mélusine, c'est-à-dire le Moyen-Âge, c'était quand même un luxe. Plus qu'un luxe, une forme de débauche, parce qu'on se baignait, vous le savez, deux fois par an, à Noël et à Pâques. Donc se baigner toutes les semaines, c'était quand même beaucoup. Ou alors c'est « Oui, mais ne prononce jamais devant moi le mot « mort ». Death. Ou bien ne me touche jamais avec un objet en fer. Ou bien oui, mais ne m'emmène jamais sur l'eau. Enfin, toujours des choses très un peu étranges, mais relativement faciles à respecter en apparence. Et l'être humain donc accepte de respecter ce tabou. La fée se laisse épouser. Du temps peut passer, ils peuvent avoir des enfants. Dans le cas de Mélusine, ils en ont eu 10. Et puis un jour, l'être humain a au fond de lui cette curiosité malsaine qui fait que quand on lui demande de respecter quelque chose, il y a quelque chose de plus fort que lui qui fait qu'il ne peut pas le respecter longtemps. Il est pris par cette curiosité, par ce doute en disant « Mais que fait-elle le samedi? Est-ce qu'elle ne fait pas autre chose que se baigner? Et pourquoi ne pas l'emmener sur l'eau? Et pourquoi ne pas prononcer ce mot ?» Et finalement, ça le tiraille, ça le taraude au point que, même s'il se passe des années de pur bonheur, parce que épouser une fée, c'est un pur bonheur. Eh bien, c'est plus fort que lui. L'être humain rompt son serment. Il prononce le mot interdit. Il va voir la fée qui se baigne le samedi. Et là, c'est terminé. La fée, dans l'instant, le quitte. Il ne revient jamais. Et lui se devient moine, généralement. C'est-à-dire qu'il est désespéré.
Malheureux comme une pierre.
Voilà. Malheureux comme une pierre. Donc, voilà une des caractéristiques de la fée. Il y en a d'autres, bien sûr, mais...
On y reviendra parce qu'il y a des fées qui portent des noms mémorables et donc il faudra que tu nous en parles. Mais on va laisser là les fées pour l'instant et puis on va demander à Chris Debien comment dans son cycle qui a été réédité chez J'ai lu, on montrera les deux volumes. Voilà. Comment se manifestent les pouvoirs magiques? Est-ce que c'est des magiciens? Est-ce que c'est des magiciens qui ont un apprentissage? Quelle forme ça prend? Parce que dans la fantasy, une des grandes variantes, c'est justement le travail qu'on peut effectuer sur la magie, son utilisation, ses différentes formes, les personnages qu'il incarne.
Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de détourner certains codes de la fantasy, justement. Et en plus de ça, j'ai été rôliste pendant très très longtemps, donc j'avais pas envie de refaire le coup des points d'expérience à gagner à chaque fois. Ce qui m'a plus intéressé, c'était la source de la magie, et surtout de faire un monde où la magie est émergente. Et donc les sorciers sont considérés comme des gens... Pas à brûler, parce qu'on n'est pas au Moyen-Âge, mais en tous les cas, des gens qui inspirent la méfiance. Et notamment, alors il y a trois sources de magie. Hein. Il y a une source qui s'appelle l'éclat, qui fait penser au côté positif de la force, pour reprendre ce qu'a fait George Lucas. Il y a l'obscur qui fait évidemment penser au côté obscur de la force, du coup. Et puis il y a l'âme qui est vraiment la découverte, hein, cette nouvelle énergie magique que les gens vont découvrir. Et ce qui m'a intéressé, c'est que tout le monde pouvait être magicien. Et que l'âme, alors le nom est évidemment choisi en conséquence, c'est quelque chose qui est au fond de chacun des hommes et des femmes et qu'il va pouvoir développer, découvrir à condition effectivement de plutôt de faire des choses positives, on va dire. Après, l'obscur, par exemple, même si au départ ça paraît très dichotomique comme ça et puis très manichéen, en fait, les sorciers de l'obscur, que j'ai appelés les Sangelem, parce que pour invoquer leur magie, ils sont obligés de se scarifier, de faire couler leur sang, et c'est à partir de leur sang, de l'énergie de leur sang, qu'ils vont pouvoir utiliser des pouvoirs magiques. Mais par extension, c'est la magie du sang, véritablement. J'ai repris des choses qui font penser aux Mayas et aux sacrifices de ce côté-là. Et en fait, alors sans essayer de trop révéler les choses, mais ces magiciens-là ne sont pas si méchants que ça. En fait, ce n'est pas le choix de la source de magie qui va faire qu'ils sont méchants ou pas méchants, c'est leur humanité. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans ce que j'écris en général, puisque je m'aperçois que j'écris toujours la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain et surtout sa capacité de choix. On a le choix de faire une bonne ou une mauvaise action, enfin encore que le bon ou mauvais est très, très relatif. Et c'est ce qui me plaît, c'est les petits mécanismes qui vont nous amener à aller plutôt du côté de la bonne action plutôt que du côté de la mauvaise action. Donc les sorciers sont pareils, en fait. La magie. Et je voulais pas d'une magie qui soit totipotente, trop forte, même s'il y a certains personnages, évidemment, qui l'ont développé un peu plus que les autres, mais ça reste pour la plupart des petites choses. Il faut que chacun découvre sa propre source de magie en soi. Donc c'est comme ça que j'ai conçu mon système de magie, pour parler comme un rôliste. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec mon métier très sérieux, je ne sais pas s'il est très sérieux, puisqu'il consiste à attacher les gens et à les piquer. Hein. Je travaille aux urgences psychiatriques, donc voilà, mon métier c'est juste d'attacher les gens, plutôt les jeunes filles d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, le rapport avec mon métier, c'est ça. C'est que ce que j'enseigne à mes patients, c'est le choix. C'est qu'ils ont toujours le choix de se laisser tomber ou le choix d'essayer de remonter. Après, avec de l'aide, sans aide, ça c'est autre chose. Mais ce qui est le plus important dans l'être humain, c'est cette capacité de choix et d'en avoir conscience. Parce que quand on en a conscience, on peut faire de grandes choses.
Alors on va se retourner à nouveau vers Trudy Canavan et on va lui demander de nous expliquer de manière plus explicite que tout à l'heure comment la magie est mise en œuvre dans son cycle, pour autant qu'elle puisse le révéler. Et une question peut-être plus générale, pourquoi a-t-elle décidé d'écrire de la fantaisie ?
I've always been fascinated by stories that contained supernatural elements.
J'ai toujours été fascinée par les histoires qui contiennent des éléments surnaturels.
From fairy tales, the very beginning, even Bible stories.
Bible. Des contes de fées ou même des histoires de la Bible.
And fairy tale stories. As a child, there was the young adult fiction that I read, which Ursula Le Guin and authors like that.
Et quand j'étais jeune, c'était le genre de roman jeunesse que je lisais, par exemple Ursula Le Guin aussi.
I was very inspired by Star Wars.
Star Wars?
Yes.
Star Wars.
Star Wars. Yes.
j'ai été très inspirée par Star Wars.
When I saw The Empire Strikes Back, I decided I wanted to make films.
Quand j'ai vu L'Empire contre-attaque, j'ai décidé que je voulais faire des films.
I think I was about 12.
Je pense que j'avais environ 12 ans.
An adult told me to write my ideas down.
Et un adulte m'a dit de mettre sur papier mes idées.
So I did that for a while, and I also drew pictures.
Et donc j'ai fait ça pendant un moment, et aussi je faisais des dessins.
And when I got to 14, I read Lord of the Rings, and at that point, I knew it was writing that I wanted to do.
Et donc quand j'ai atteint 14 ans, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, et là j'ai su que c'était l'écriture que je voulais faire.
I decided that the personality you needed to have to be a filmmaker was to be pushing people around, telling them what to do. I was very, very shy.
Et donc j'ai compris que la personnalité qu'il fallait avoir pour faire des films, c'était de, il fallait aussi pousser les gens, leur dire quoi faire, et moi j'étais très timide.
And I figured that locking myself in a room and writing stories was more my character.
Et donc je pensais que c'était plus, ça me ressemblait plus de m'enfermer dans une pièce et de et d'écrire à propos de mes personnages.
Et la magie.
And magic. Why magic? Well, magic has been always been the thing that fascinated me most about fantasy.
Oh, la magie, ça a toujours été ce qui m'a le plus fasciné dans la fantasy.
In my first series, I thought, what if magic had to be taught?
Dans ma première trilogie, je me suis dit, et si la magie était quelque chose qui devait être enseigné?
That would make the teachers very, very powerful, and they would become the highest class in society.
Et ça, du coup, ça rendrait les professeurs de magie très, très puissants, et ça ferait d'eux la classe supérieure de la société.
And they would get to choose who learned, so magic would become restricted to that class of society.
Et donc, du coup, les professeurs pourraient choisir qui va apprendre la magie, et donc, du coup, ça en ferait une classe de la société très restrictive.
So of course, then I had a character who was from the other end of society, in the slums of the city, who manifested magic naturally.
Et donc, j'ai décidé d'avoir un personnage, évidemment, qui venait de l'autre bout de la société, de l'autre. L'autre extrémité de la société qui venait des bidons, pas des bidonvilles, mais bon, des taudis de la ville.
In my second series of books, The Age of the Five, a completely new world, I thought, well, what if the magic is imbued in the world? What if everyone can use magic?
Et dans ma deuxième série, L'Âge des Cinq, je me suis demandé, et si la magie était partout dans le monde, et si tout le monde pouvait utiliser la magie?
So some people can light a candle. Most people can only light a candle, but some people are so powerful they can be immortal and change their appearance.
Donc certaines personnes, et la plupart des gens d'ailleurs, peuvent seulement allumer une bougie, mais certaines personnes sont tellement puissantes qu'ils sont en fait, qui peuvent être immortelles, ils peuvent même changer leur apparence.
The thing I liked most about that particular world is I could have the animals and plants use magic.
Et la chose que j'aimais particulièrement dans ce monde-là, c'était que je pouvais faire en sorte que les animaux et les plantes utilisent la magie.
And the ways that I had those animals and plants use magic is much like animals and plants use anything, any resource in this world.
Et la façon dont les plantes et les animaux utilisaient la magie dans ce monde-là, c'est à peu près la même façon dont les animaux et les plantes utilisent n'importe quelle ressource dans notre monde à nous.
So to catch food, to avoid being food, and to find a mate.
Donc pour attraper de la nourriture, pour éviter de devenir de la nourriture, et pour trouver un compagnon, un partenaire.
Alors, dans un des grands classiques de la fantasy que vous avez peut-être lu, qui est un roman déjà assez ancien, qui est Le Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin, là aussi, ça raconte l'apprentissage de la magie. Et dans le roman d'Ursula K. Le Guin, on s'aperçoit qu'apprendre la magie, c'est pas uniquement... développer des dons préexistants chez soi, mais que ça implique que l'individu qui est magicien, il ait également pratiqué la magie, l'use, lui coûte des efforts. Alors qu'en est-il de vos apprentis? Est-ce que aussi l'apprentissage de la magie est difficile? Et s'il existe des formes de magie naturelle, quelle est cette forme de magie? C'est donc qu'elle préexiste chez tout le monde ou qu'elle apparaît chez certains individus seulement?
In the first series of Black Magician trilogy and the prequel and sequel, the magic is like an energy. It's a life force. There is not necessarily a physical cost to using it, but you only have a certain amount within you that you can use. And different people have different levels of magic.
Donc dans la première trilogie et aussi la préquelle et la séquelle, la préquelle et sequel, la suivante, la série suivante. Donc dans la trilogie du magicien noir. En fait, c'est pas tellement une histoire de magie qui te coûte quelque chose, mais plutôt chaque personne a en soi un certain degré, une certaine quantité de magie qui peut varier selon les personnes. Et c'est comme ça qu'on l'utilise.
Un peu comme chez Pierce Anderson, de Pierce Anthony, où dans le monde de Pierce Anthony, toutes les personnes ont des pouvoirs magiques, mais il y a des pouvoirs magiques très différents les uns des autres. C'est-à-dire, il y en a un qui a le pouvoir de changer la couleur de son urine, ce qui est un don magique tout à fait appréciable.
Everyone who's a magician in that world.
Chaque personne qui est un magicien dans ce monde-là.
And some people aren't magicians. Magicians are a small proportion of the population.
Les magiciens sont qu'une petite proportion de la population. Tout le monde n'est pas magicien.
They can all use the magic for the same purposes, but naturally some people are better at some things than others.
Ils peuvent tous utiliser la magie pour les mêmes choses, mais de façon naturelle, certains sont plus doués pour certaines choses que d'autres.
Or else there's social reasons why they choose one form of magic over another.
Mais il y a aussi des raisons sociales pour lesquelles ils choisissent une forme de magie plutôt qu'une autre.
For example, there's three disciplines. There's warrior skills, there's healing, and there's alchemy.
Par exemple, il y a trois disciplines différentes. Il y a guerrier, guérisseur et alchimiste.
So those people who like fighting, who have that sort of that interest,
competitive spirit.
Competitive spirit, yes. They will go into the warrior class. Donc, not many women do.
Donc les gens qui aiment bien se battre, qui ont cet esprit combatif, ils vont aller dans la classe des guerriers, mais pas beaucoup de femmes le font.
Women are encouraged to go into healing.
Évidemment, on encourage les femmes à aller vers les métiers de guérisseurs.
And the rest of them will end up in alchemy.
Et le reste d'entre eux va finir avec les alchimistes.
Merci. On va revenir au fait. Il y a dans notre mythologie plusieurs personnages de fées extrêmement importants. Il y en a au moins deux dans le cycle arthurien qui sont des figures absolument emblématiques, qui sont Morgane et Viviane. Alors, qu'est-ce qui différencie Morgane et Viviane des fées dont tu nous as fait le portrait tout à l'heure, qui est en fait la fée des contes populaires?
Ce qui différencie, en fait, dans le cas de Viviane, c'est le fait que ce n'est pas une fée au départ. C'est-à-dire que c'est une... En fait, selon les légendes, on apprend que Viviane était en fait une jeune mortelle, mais qui était en fait vouée au culte de Diane, en forêt de Brocéliande. Donc c'était un culte païen qui avait lieu encore à l'époque où la Bretagne était en partie christianisée. Et en fait, en tant que prêtresse de Diane, elle ne devait pas franchir les frontières d'arbres de la forêt de Brocéliande. Elle était prisonnière, en quelque sorte, de la forêt. Et c'est en rencontrant Merlin, le magicien par excellence, près de la fontaine Barenton, qui existe encore aujourd'hui, qui est la dernière fontaine bretonne à ne jamais avoir été christianisée, et dans laquelle on peut rencontrer le petit peuple quand on y va. Eh bien, c'est au moment de la rencontre amoureuse, mais chaste, dit-on, entre Merlin et Viviane, que Merlin initie Viviane à toutes les magies qu'il connaît. Et pourquoi Merlin est magicien? Parce qu'il est le fruit de l'union entre, certains disent le diable, d'autres disent un être de l'autre monde, et une mortelle, certains disent une moniale, d'autres une princesse, réfugié dans un monastère. Et lui, justement, il a décidé de ne, bien que ayant naissance des pouvoirs magiques, il a décidé de ne jamais les utiliser pour faire le mal, mais toujours pour faire le bien. Et il initie Viviane à ses pouvoirs magiques. Viviane devient donc une magicienne, en quelque sorte. On dit la fée Viviane, en réalité, c'est une magicienne, qui devient l'égale de Merlin. Donc, ce qui veut dire que cette magie peut s'enseigner, et que ce n'est pas forcément un don de départ. Elle devient tellement son égale qu'elle finit même par l'enfermer. Alors, certains disent dans une roche, d'autres dans une prison d'air. Elle l'enferme, et ce qui fait qu'il devient, lui, le prisonnier d'amour de Viviane, alors qu'elle était la prisonnière de Diane dans la forêt. Morgane, qui est la demi-sœur d'Arthur, elle s'adonne aussi à la magie, mais une magie, alors là aussi c'est peut-être une relecture chrétienne qui est passée par là, mais l'on dit que c'est une magie plutôt noire. En tout cas, c'est vrai qu'elle est présentée dans les récits arthuriens, elle est plutôt présentée comme la fée redoutable, la fée noire, celle qui est un peu qui se venge. C'est elle qui, par exemple, enferme son amant traître Guillaumard dans le Val sans retour, et qui ensuite fait en sorte que tous les faux amants, tous les amants qui n'ont pas été, ne serait-ce qu'en pensée, attention, hein, ne serait-ce qu'en pensée, fidèles à leur serment amoureux, ne peuvent plus sortir de ce Val sans retour. Et donc, ils pensent qu'ils sont entourés de dragons et de géants, et ils ne peuvent plus sortir. Et c'est Lancelot qui, étant le meilleur chevalier du monde, comme chacun sait, finira par libérer les chevaliers perdus dans le Val sans retour. Mais Morgane, d'ailleurs le terme Morgane, le mot Morgane, viendrait de Morganesd, qui en breton veut dire « née de la mer ». La fée Morgane est également une prêtresse, l'une des 9 grandes prêtresses de l'île d'Avalon, et donc une des gardiennes des pommiers qui produisent des pommes d'or d'éternelle jeunesse, qui sont dans l'île d'Avalon, et c'est elle qui recueille son frère, son demi-frère Arthur, lorsqu'il a été donc navré au combat, navré dans le sens médiéval bien sûr, par son fils Mordred, et là, eh bien, il est soigné par Morgane. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on retrouve la mythologie du jardin des Hespérides, on retrouve la mythologie d'un paradis celte qui se situe non pas comme chez les chrétiens dans un au-delà céleste, mais dans un au-delà de la mer, c'est-à-dire dans une île qui n'est accessible qu'à certaines conditions. Et c'est ainsi que l'on dit que les fées ont aussi cette vocation d'accompagner les âmes des guerriers morts, un peu comme les Valkyries les emmenaient au Valhalla, où ils étaient reçus par Odin. Eh bien, les guerriers morts vont en Avalon et là vivent une éternité de délices en compagnie effectivement des belles fées.
Merci. Chris Debien, j'ai envie de vous poser la même question que j'ai posée à Trudy Canavan tout à l'heure, d'autant que vous avez fait référence également à Star Wars. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et d'écrire dans ce genre particulier qu'est la fantasy ? Avec un choix, mais qui est peut-être circonstanciel, vous allez nous en dire plus, d'écrire justement dans la catégorie jeunesse, même si la réédition est dans une collection normale.
C'est compliqué. Ce qui m'a donné envie d'écrire, plein de choses. Je crois que ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est de lire. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui ne savait pas lire, mais qui aimait les livres. C'est une espèce de paradoxe. Et donc, il était abonné à France Loisirs, faire de la pub. Et pour lui, c'était la plus belle chose au monde. Il était ouvrier, il était charpentier de marine, donc c'était un homme simple. Mais avoir ses livres dans sa bibliothèque, c'était quelque chose de très important. Et il me demandait, quand j'allais le voir, de lui lire des histoires, ce qui était une espèce, là aussi, de paradoxe, puisque j'étais le petit-fils. Et j'ai commencé par lui lire du Jules Verne, parce que les livres m'attiraient. Ils étaient, même si c'était des imitations, mais ils étaient rouges, avec ses enluminures et puis ses illustrations. Et donc, tout de suite, je suis rentré dans la lecture par l'imaginaire. Et ça m'a profondément marqué, et ça reste encore aujourd'hui. Jules Verne, c'est une de mes lectures récurrentes. J'ai besoin de mon Jules Verne par au moins une fois par an. Ensuite, il y a eu la rencontre avec le Seigneur des Anneaux. Alors, je dirais pas à quel âge je l'ai rencontré, mais je sais plus, je devais avoir 13-14 ans. Ou d'abord, ça m'a profondément ennuyé quand je l'ai lu au début. Je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être génial, et j'arrive pas à le lire. Donc, je suis redescendu, je suis allé voir Bilbo. Et puis après, je suis rentré dans cet univers merveilleux de Tolkien. Une écriture, quand même, qui est pas facilement accessible. Et je me suis dit, si un jour t'écris, tu feras une trilogie de fantasy. Voilà, c'était une espèce de serment de gamin que j'ai dû me faire tout seul dans ma chambre vers 15 ans. Je me suis dit, le jour où j'ai l'occasion. Et puis après, l'écriture, c'est venu par petites touches. C'est-à-dire que j'ai collaboré pendant mes études de médecine, comme on s'ennuyait le soir. On allait avec mon camarade, on travaillait pour Casus Belli, qui était la revue de jeux de rôle à l'époque. Et donc le jeu de rôle m'a maintenu dans l'imaginaire, et à l'époque c'était quand même beaucoup marqué par Donjons et Dragons. Mais il y avait aussi l'arrivée de Star Wars en jeu de rôle, et effectivement tout l'univers de George Lucas qui est quand même... c'est de la fantasy, George Lucas. C'est de la fantasy avec des vaisseaux spatiaux, mais sinon c'est de la fantasy. Donc ça m'a maintenu là-dedans, et puis j'ai eu la chance de rentrer chez Hachette par la novélisation de L'Enfeuse de Troie. On parlait de la magie accessible à tout le monde avec des pouvoirs qui sont un peu étranges, puisque c'est pareil, dans L'Enfeuse, tout le monde n'a pas un pouvoir utile. Et donc d'écrire pour la Bibliothèque Verte, donc pour des enfants de 10 ans, c'était déjà un exercice un peu particulier. Et puis j'ai eu, un jour, mon éditrice m'a dit, si tu as quelque chose à nous présenter, vas-y. Et je dis, oui, j'ai une trilogie de fantasy qui traîne depuis l'âge de 15 ans, donc je voudrais la développer. Dans un premier temps, je l'ai développée en jeunesse, et puis pour Gélu, je l'ai réécrit en grande partie pour lui donner... pour laisser notamment la magie du sang qui était très qui a soulevé un certain nombre de boucliers du côté des parents et des professeurs, surtout hein. Les professeurs n'ont pas beaucoup aimé cette magie du sang, mais au moins dans la version adulte j'ai pu faire ce que je voulais un petit peu. Puis il y a un petit peu de sensualité aussi qui était très très critiquée dans la version jeunesse. C'est de la sensualité, mais c'est devenu un peu plus chez les adultes. Donc voilà, j'ai pu me profiter. Mais donc, écrire, c'est vraiment venu d'une envie de lecteur. Hein. J'ai beaucoup lu jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Après, je me suis mis à écrire. Et étrangement, quand j'écris, je ne peux pas lire. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Parce que sinon, j'ai une écriture très magnétoscope. Je reproduis avec beaucoup moins de talent ce que j'ai lu. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut que je fasse de grandes phases où je ne lis pas pour pouvoir écrire. La fantaisie, c'était une évidence. Il fallait que je le fasse. C'était un rêve de gamin. C'est fait. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, je ne voulais pas rester dans la fantaisie. J'ai commencé par le polar, en fait. Hein. J'ai fait du polar avant. Là, j'ai fait de la fantaisie. Demain, ça sera de l'anticipation. Après-demain, c'est du thriller. Voilà. Tout ce qui m'inspire, ça reste quand même beaucoup autour de l'imaginaire, sauf le polar et le thriller. Mais même le premier polar que j'ai écrit se basait sur un fait historique, mais qui est à la fois une légende avec une histoire de possession. Donc voilà, le lien aussi. Je reste quand même aux frontières de l'imaginaire.
Alors on va faire le tour dans l'autre sens, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Édouard Brazet, les faits ont connu un singulier destin, puisque d'abord ce sont des personnages de contes populaires, mais peut-être qu'avant... les faits existent dans d'autres univers, mais bon, ce que nous en connaissons, c'est des contes populaires, ce qu'on appelle dans la classification d'Arne Thompson les contes merveilleux. Et puis au XVIIe, au XVIIIe siècle, les fées deviennent les personnages de contes lettrés extrêmement sophistiqués, notamment chez Perrault, mais Charles Perrault, mais pas seulement, hein, chez les autres auteurs de contes de fées. Au XIXe, ces contes de fées sont... réécrit et publié dans des collections pour enfants, et le conte de fées devient synonyme de littérature pour l'enfance. Au XXe, fin du XXe, début du XXIe, les fées réinvestissent la littérature adulte. C'est un singulier parcours, quand même.
Mmh. Oui, c'est vrai. Alors, pour revenir au conte merveilleux, ce qu'on appelle en France les contes de fées, qu'en Allemagne on appelle plutôt les contes de grand-mère, enfin voilà. Le terme conte de fées est très mal choisi parce qu'il y a très très peu de fées dans les contes merveilleux. Je parle des contes merveilleux qui viennent réellement du répertoire traditionnel, même pas folklorique, mais traditionnel, et tels qu'ils ont été notamment transcrits par les frères Grimm, qui à ce jour sont sans doute les meilleurs collecteurs de contes merveilleux. Contrairement effectivement à cette grande collection d'une quarantaine de volumes qui s'appelait Le Cabinet des Fées, qui a été publié, donc c'est un peu le livre de poche des années qui ont précédé la Révolution, donc c'est fin 18e, il y a une quarantaine de volumes, et là on a effectivement des contes qui n'ont rien à voir avec le conte merveilleux, mais qui sont des contes avec plein de jolies petites fées, des dames qui sortent visiblement de la cour, ou de chez le coiffeur, et qui effectivement ont des pouvoirs magiques, mais tout à fait extérieurs et pas du tout intéressants. Alors que les contes merveilleux, il n'y a pas de fées, il n'y a pas de personnages. Au fond, il y a peu de personnages surnaturels. La magie, elle fait partie, en fait, comme le disait Chris, elle fait partie des pouvoirs de l'être humain. Et c'est souvent le nigo, c'est souvent le troisième fils, celui qui justement est renié, dénié, tout ça, qui lui sait écouter, non pas la fée, mais le messager de féerie, ce qui est très différent, qui peut être un petit nabio, qui peut être une mendiante ou une vieille femme sur le bord du chemin qui lui demande de lui porter ses fagots, qui peut être n'importe qui, n'importe quoi en fait, qui est un messager de féerie. Et là, le messager de féerie, il va donner un signe dans son langage de féerie, que le nigo, parce que justement il a l'esprit ouvert et non pas renfermé par le mental, par la tyrannie du mental, donc le nigo va l'écouter et va justement aller dans des voies qui sont paradoxales, qui sont symboliques, et là il va trouver l'objet de sa quête, envoyé par généralement son père le roi, l'eau de la vie qui va soigner la princesse, ou bien tel trésor, enfin, ou bien rendre la fécondité au royaume, ou, bon, etc. Et donc c'est intéressant de voir que la féerie, en fait, le merveilleux, au fond, il n'a pas besoin d'avoir un support, un sujet, un personnage comme celui de la fée pour exister. Et dans le monde merveilleux de, je dirais, l'Occident chrétien du Moyen-Âge, y compris Chrétien de Troyes et tous les auteurs de l'époque, en fait, il y a peu de fées. Alors, encore une fois, comme je le disais, Morgane et Viviane, ce sont des mortels. Ce sont des femmes, peut-être exceptionnelles par leur beauté, mais elles n'ont pas de pouvoir magique en tant que telles. Je dirais presque que la fée est devenue la fée qu'on connaît avec la petite baguette magique et les pouvoirs, que lorsqu'on a plus croire, on n'a plus cru à leur pouvoir, lorsqu'on a cessé de croire à la vraie magie, à ce moment-là, on a inventé des personnages qui étaient magiques. Pourquoi ? Parce qu'on ne pensait plus que la magie était opérationnelle pour nous. Et elles sont revenues à travers, effectivement, des sortes de caricatures, même si j'aime bien Walt Disney, mais enfin, la fée de Peter Pan, la fée Clochette, c'est vraiment une caricature par excellence. Donc la fée est revenue, j'irais, dans le répertoire des films ou des littératures jeunesse ou adultes, sous une forme effectivement caricaturale. La fée, c'est au fond, c'est la déesse, c'est la déesse, la fata, c'est la déesse du destin. C'est pour ça qu'elle est souvent associée au berceau, associée dans les contes. C'est la fée qui donne les grâces et les vœux au nouveau-né. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle régit, c'est un peu les parcs, c'est un peu les normes, c'est un peu les tisseuses de destin, qui justement tissent le destin des humains, mais aussi le rompent. Donc la fée est soit une déesse, soit une mortelle, mais au fond, elle est tout sauf la fée telle qu'on la représente le plus souvent. C'est un peu le paradoxe de la chose, quoi. La fée, au fond, la fée en tant que telle n'est pas intéressante. J'entends par là la fée avec les ailes dans le dos, un peu comme les anges, la baguette et le chapeau pointu, quoi. Mais la vraie fée, c'est-à-dire la mortelle initiée, initiatrice, ça, oui. On en connaît tous, d'ailleurs, comme ça.
On en connaît tous, oui. Enfin, j'espère, on en connaît tous.
Nous en connaissons, en tout cas.
Oui. Donc, la dernière question de ma part va être pour Trudy Canavan. Dans un texte très célèbre qui s'appelle « Du conte de fées », Tolkien s'est défendu de ce que le conte de fées soit une littérature d'évasion. Et il a écrit une phrase qui est très belle, qui est « Il ne faut pas confondre l'évasion du prisonnier et la désertion et la fuite du déserteur ». Est-ce que cette pensée de Tolkien vous semble intéressante et expliquer l'intérêt de ce genre qu'est la fantasy, puisque derrière le merveilleux, il y a quelque chose qu'on veut faire passer. Et qu'est-ce que vous voulez vous faire passer par la fantasy ?
Um, Yes, fantasy is not just about escapism.
Oui, la fantaisie, c'est pas juste une histoire d'évasion.
There's a little bit of wish fulfillment in there, which I almost consider decoration or perhaps even a lure. A lure as in bait. bait as in like in a trap. It's the what you capture something with.
Ah, bait. Ah, un filet. Okay.
Mm-hmm.
So,
you say that sentence again? Fantasy is not just... there's a little bit of wish fulfillment in fantasy, which acts a little bit as a bait.
Oui, donc en fait, la fantasy parfois agit un peu comme un filet.
To get the reader in.
Pour attraper le lecteur.
And then you can discuss many, many issues. And I've discussed many issues in my books, countless issues. I mean, there's social change, there's...
Et donc on peut discuter de beaucoup de problèmes différents dans la fantasy. J'ai discuté de beaucoup de problèmes différents dans ma fantasy, des problèmes sociaux.
So there's class struggles, there's equality, there's feminism.
La lutte des classes, l'égalité, le féminisme.
And I think fantasy is a great tool for exploring these things without being overly obvious or preaching at people.
Je pense que la fantasy est un outil extraordinaire pour parler de ces choses-là sans agir comme un prêcheur, sans le faire de façon trop forcée.
I always aim to raise questions but never push answers.
Je veux toujours soulever des questions chez le lecteur, mais je veux jamais lui pousser des réponses sur lui.
Une fonction allégorique.
Oh, it works as an allegory.
Yes, yes, oui. A little.
Est-ce qu'il y a une question dans la salle? À l'un de nos invités, oui.
Attendez, je vais vous apporter un.
Ah, tu pourras pas.
Non, je ne pourrai pas.
Oui.
Ah, il y a un micro sans fil.
Donc, il me semble qu'en général, dans la magie, il faut toujours qu'il y ait des règles. Non, vous parliez pas mal de règles, des tabous, de l'apprentissage, etc. Ces règles, vous diriez qu'elles servent à quoi ? Est-ce que c'est uniquement pour que les choses soient pas trop faciles pour les personnages, ou est-ce qu'il y a une autre fonction ?
Alors, je ne sais pas si la question m'était destinée.
Un petit peu tout le monde.
Personnellement, je voulais pas que la magie soit trop forte. Donc effectivement, il y a un tas de limitations. Et notamment, la magie qui m'a intéressé le plus, cette magie du sang, la limitation, c'est le corps. Puisqu'on ne peut pas non plus verser son sang indéfiniment sans en subir des conséquences. Et je pense que la fonction de ces règles, c'est justement pour pas qu'il y ait trop de différences entre les êtres et que il n'y en ait pas un qui prenne le pouvoir. C'est un peu l'opposition entre Gandalf et Saruman, d'ailleurs. Saruman, c'est le magicien qui va aller au-delà des règles. Alors que Gandalf, lui, reste dans des règles qui sont très... D'ailleurs, des règles qui restent en filigrane la plupart du temps. Mais il se retient. Il pourrait dominer le monde. Il ne le fait pas. Pourquoi ? Il y a un code moral derrière.
I think the rules mainly for me it's about story. If you have characters that can do anything, then there's no story, there's no conflict.
Je pense que pour moi le problème des règles c'est surtout un problème par rapport à la narration, parce que si vous avez des personnages qui peuvent faire n'importe quoi, il y a plus d'histoire, il y a pas de conflit.
Also when it comes to storytelling, having limitations for the characters is much more interesting to play with. It's like a game.
Et aussi en matière de narration, mettre des limitations sur les personnages, c'est beaucoup plus intéressant, ça vous permet de jouer avec.
It's a game I play with my characters and my worlds to come up with problems and then work out how to fix them again.
Et c'est comme ça je joue avec mes personnages, je joue dans mon monde, je leur donne des comme ça soulève des problèmes qu'ils doivent essayer de résoudre.
I don't think I'd have as much fun if I didn't have rules and restrictions and ways structure to the magic.
Et je pense que ce serait pas aussi marrant pour moi si j'avais pas des règles, des restrictions et des contraintes à la magie.
Et il y a autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que la magie étant en fait une sorte de liberté supplémentaire à apporter au magicien, puisqu'il a des pouvoirs qui outrepassent ceux-mêmes de la nature, cette liberté ne va pas sans le fait d'assumer les conséquences de cette liberté. Ce qui fait que les règles viennent de là. C'est-à-dire que plus on est libre, moins on l'est. C'est le problème des dieux, d'ailleurs. Les dieux étant par excellence des magiciens, eh bien, je prends par exemple le dieu Odin, parce que j'ai eu l'occasion de travailler un peu dessus. Odin étant un dieu suprême, il a donc toutes les libertés possibles, mais le corollaire, c'est qu'il est responsable de tous ses actes. Donc, étant un dieu créateur, et le magicien c'est un peu un dieu créateur, chaque fois qu'il crée quelque chose, il est responsable de sa création. Donc, en fait, s'il crée quelque chose de mauvais, par exemple, eh bien, il est responsable des conséquences de la créature qu'il a mise au monde. Donc, en fait, les règles viennent de là. Elles viennent des conséquences de la liberté. Et c'est marrant parce que ça devient presque un débat philosophique à ce moment-là. Et on voit que la magie, en fait, nous entraîne vers... c'est un peu comme un miroir de notre propre humanité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la technologie, qui est la magie moderne, permet effectivement d'avoir des pouvoirs que l'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous sommes confrontés très vite aux conséquences de ces pouvoirs, que ce soit en termes d'éthique ou en termes tout simplement d'usage. Il faut bien... Des choses comme Internet, je veux dire, était inexistante il y a 20 ans, en tout cas d'un point de vue, je dirais, global. Eh bien, il y a tout de suite le retour du bâton. En sorcellerie ou en magie noire, on appelle ça le choc en retour. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un acte de magie qui va tuer votre voisin. Le problème, c'est si ce n'est pas aligné avec une sorte d'ordre que certains vont rappeler l'ordre divin, d'autres l'ordre du cosmos ou l'ordre tout simplement la société. À partir du moment où c'est pas aligné, eh bien le sort que vous avez lancé, le sort de mort que vous avez lancé contre votre ami, va vous retomber dessus. Ce qu'on appelle le choc en retour. Donc en fait, les règles sont là pour, en quelque sorte, mettre un peu d'ordre dans ce qui serait sinon une grande anarchie de liberté complètement ouverte à tout.
Voilà, c'est le moment de clore le débat. Alors, il me reste à remercier Anaïg pour la traduction, Trudy Canavan, en m'excusant de lui avoir attribué une fausse nationalité, mais tout ça, c'est le Commonwealth, quand même. Édouard Brazet, merci, et Chris Debien. Notre camarade Catherine Dufour nous a manqué, mais sachez qu'elle a écrit des romans humoristiques sur des faits qui sont des faits complètement barges. Et voilà, donc si vous avez envie de rire en lisant des romans dans lesquels il y a des faits des magiciens, vous pouvez lire les œuvres de Catherine Dufour. Merci à vous et à bientôt, j'espère, dans le cadre de ce festival.